Et bonjour, vous êtes bien sur Radio FM Plus, le 91.000, c'est Robert qui vous parle, et devant moi j'ai aussi Yann à la technique. Alors vous avez reconnu cette musique c'est tout simplement l'indicatif qui tourne depuis 2-3 ans autour du Festival de Radio France. Et chose amusante, l'interprétation que vous avez entendue de Handel, les feux d'artifice royaux, c'est une interprétation qui a été réalisée par Hervé Niquet que nous avons fait parler, que nous écouterons tout à l'heure. Voilà. Donc avant de parler avec Hervé Niquet, j'ai eu la grande chance de rencontrer un magnifique instrumentiste qui s'appelle Gabriel Pidou, qui joue du hautbois, et là il jouera du hautbois classique, mais il joue aussi du hautbois contemporain, et surtout du hautbois baroque. Voilà, donc j'ai rencontré Gabriel Pidou dans une loge, et vous entendrez au loin, si vous avez les bonnes oreilles, un violoniste qui s'exerçait, que nous avons largement mis dehors, non, en toute gentillesse évidemment, de la salle où il répétait, il est passé dans la salle à côté. Voilà, donc nous allons d'abord écouter ce magnifique instrumentiste qui s'appelle Gabriel Pidou. Gabriel Pidou, vous faites partie de la famille, des Pidou. Hein, alors les deux plus connus, c'est votre père et votre grand-père.
Maintenant c'est moi et les autres. Mais
ça y est. C'est bon, vous faites bien barder la famille. Non, j'exagère. Je ne pense pas du tout. Donc, oui, votre père, il fait partie de l'ensemble, le trio Wanderer.
Oui.
Il dirige de temps en temps, parce que je l'avais vu à Brunet. Ouais, ouais, et ça. Il fait un peu de musique baroque, ça m'avait étonné. Enfin, un peu baroque, disons classique, pré-classique, quoi.
Oui, mais même baroque, il a aussi une formation de violoncelliste baroque, et il a dans sa jeunesse étudié le violoncelle baroque, et il a même joué avec la grande écurie à l'époque, et tout ça,
ah, oui.
L'ensemble baroque de Limoges.
Ah Christophe oui, d'accord. Moi, on avait un violoniste de l'orchestre qui avait joué, c'est Jacques Pratt.
Ah oui.
Il avait joué avec Malgoire.
Oui, ben voilà.
Voilà. Il n'y avait pas la fille à ce moment-là.
Mais pas bon. Encore.
Voilà. Gabriel Piroud, comment vous êtes tombé donc dans le hautbois?
Ben, je voulais être altotiste à la base, parce qu'on ne m'avait pas dit qu'on disait altiste. Donc moi, je voulais être altotiste quand j'avais 4 ans. Et mes parents, bien malins, m'avaient mis un violon dans les mains en me disant que c'était un alto. Je n'avais pas vu la différence. Ils m'ont dit que c'était un petit alto.
Ouais,
c'était un violon. Donc j'ai commencé le violon comme ça.
Il y a une grosse différence pour les enfants, un alto et un violon?
Je ne pense pas. Non, juste l'accord des cordes, mais en fait.
Ouais, c'est voilà, tout. Je pense aussi. Bref.
Je suis tombé dans le panneau comme il fallait. Donc je suis devenu violoniste, quoi. En gros, entre mes 5 et mes 9 ans, j'ai étudié le violon.
D'accord. Exclusivement, plus de solfège, je mets ça dans la famille.
Oui, au conservatoire, ça allait tout seul. Disons que je pense que je savais lire les notes avant de lire les lettres, quoi. Mais le solfège, ça. Bon, ça n'a jamais été simple parce que voilà, mais ma grand-mère me faisait les devoirs, donc c'était plus facile.
Donc le hautbois, il est venu par rejet du violon.
Le hautbois, il est venu par filouterie, parce que j'avais un violon qui avait appartenu à ma grand-mère, alors il fallait faire attention, on me disait toujours attention, c'est le violon de ta grand-mère. Voilà. Et puis surtout, mon père et ma mère savaient très bien comment ça fonctionnait, tous les deux violoncellistes savaient très bien comment ça fonctionnait, quel doigt il fallait mettre, pousser, tirer. Et un jour, j'ai vu un hautboïste dans un stage ranger le hautbois dans sa boîte. J'ai été fasciné. Démonter en petit morceau, j'étais fasciné par le fait qu'on puisse casser à dessein un instrument comme ça. Et je me suis dit, en plus, j'ai jamais vu ça, donc personne doit en faire dans la famille, donc si je fais ça, j'aurai la paix. Et effectivement, j'ai eu la paix. Et,
d'accord.
Et je me suis épanoui.
Jamais regretté. Pour le moment.
Si, de temps en temps, quand même, quand j'entends du violon, quand je vois toutes les possibilités de répertoire qu'il y a avec un violon, je me dis, ah, et si j'avais continué, qu'est-ce qui serait passé? Mais j'aurais fait trop de concurrence au grand virtuose de maintenant, donc c'est mieux que j'ai choisi ma voix unique.
Et alors donc au bois, mais alors au bois classique ou au bois baroque?
Et ben tout, c'est ça l'histoire ensuite, c'est que moi du coup dans la famille, mon père et ma mère avaient tous les deux une formation sur instruments historiques, ma mère faisait de la viole de gamme, mon père a étudié les violoncelles historiques aussi, a mis le boyau et c'est confronté un petit peu à cette manière de faire, et j'ai mon grand-père par alliance... Corniste, qui était lui à l'Orchestre de Paris et qui a aussi un peu défriché toutes les premières expériences sur corps naturel et tout ça. Donc moi j'étais très sensibilisé au fait qu'on pouvait prendre d'autres instruments pour jouer de la musique d'une autre époque. Et quand j'avais 17 ans, j'écoutais en boucle des disques de Marcel Poncel qui joue des sonates de Vivaldi et j'ai eu envie d'essayer. Alors au début on a dit c'est peut-être un peu tôt, attends un peu avant de te mettre au baroque, rentre d'abord au conservatoire supérieur et après tu mettras au baroque et tout. J'étais un peu têtu et j'ai voulu commencer tout de suite et je pense que j'ai bien fait parce que du coup ça fait que...
Donc de suite violon, enfin au bois baroque quoi.
J'avais 16 ans quoi, 16 ans j'ai commencé le bois baroque et ensuite quand on étudie au bois historique on étudie d'abord le baroque, ensuite on se met au classique, après on touche un peu à tous les romantiques, ce qui fait que maintenant chez moi j'ai 11-12 au bois. Le bois d'amour.
Tous un parfait état de marche.
Il y en a un qui est actuellement démonté parce que je voulais l'huiler et je ne l'ai pas remonté, je n'ai pas pris de temps. Ça fait un an qu'il est sur mon bureau, je vais le faire un de ces quatre. Mais sinon, ils sont presque tous. J'en ai fendu un la semaine dernière à Bordeaux parce qu'il faisait 40 degrés, mais sinon, ils sont.
Ah oui, ça se fend aussi rapide. Ça se fend plus vite qu'un violoncelle.
Ça se fend plus vite qu'un violoncelle, c'est aussi moins grave parce que ce n'est pas les mêmes tarifs. Mais ça se fend surtout quand c'est des vieux instruments qu'on n'a pas joué pendant longtemps et qu'on rejoue dans des conditions un peu extrêmes.
Mais c'est des instruments, des copies, c'est pas des...
Et alors il y a des copies, moi mon hautbois baroque et mon hautbois classique ce sont des copies. Mais par exemple quand on prend un hautbois du répertoire romantique, donc à partir de 1800, disons à partir de 1820, 1830, c'est très dur de trouver des bonnes copies. Donc en général c'est plus pratique d'acheter des hautbois d'époque. Et d'essayer de les faire marcher.
Ça m'a coûté un prix fou, non ?
Ça coûte pas un prix fou.
Ah bon ?
Pour vous donner une idée, un des hautbois les plus rares et les plus beaux qui étaient vendus ces dernières années en vente aux enchères était un magnifique modèle qui était à Versailles à l'époque, du temps de Louis et tout ça. C'est parti à 22 000 euros.
Voilà. C'est pas fou. C'est pas hors du commun.
Moi, je trouve ça beaucoup, mais...
Mais il faut être sûr qu'il fonctionne, après.
Il faut être sûr qu'il fonctionne, ou alors être sûr qu'il va faire bien dans la vitrine du musée ou de la collection.
Mais toutes les essences sont... On les retrouve ou...
On les retrouve. Alors après, du buis qui a 200 ans, forcément, il est un peu moins facile à jouer que du buis qui a 2 ans. Donc les copies sont plus agréables à jouer, ça c'est sûr. Le hautbois est un instrument, à l'inverse des instruments à cordes, qui se déprécie un peu chaque année.
Comme une voiture de la vapeur.
Oui, la vapeur, la condensation ou la bave, comme vous voulez.
Oui, voilà, je ne sais pas le dire.
Non, mais c'est de la condensation, mais pour un peu que, voilà, on le joue souvent et tout ça, il y a un peu d'érosion, si on peut...
Mais on en trouve des... Donc vous parlez de Lully, mais on en trouve beaucoup de cette époque-là.
Non, assez peu. On ne sait pas trop où ils sont passés, peut-être qu'ils ont été brûlés pour faire du bois ou des choses comme ça.
Oui, parce que je crois que la Révolution a fait du mal sur les clavecins, on peut imaginer que sur certains autres...
Surtout que c'était un vrai instrument de Versailles, quoi. Il a été créé là-bas, donc peut-être que les gens avaient pris ça en horreur, je ne sais pas.
C'est possible aussi. Alors, quelle est la grosse différence entre un hautbois baroque et un hautbois classique, disons ?
Pour le hautbois classique, on va parler de... Nous, ce qu'on appelle le hautbois classique, c'est l'époque de Mozart, le hautbois de l'époque de Mozart. Donc, il n'y a aucune différence, si ce n'est la largeur de la perce, le diamètre général de la perce. Je ne sais pas si vous savez, mais le diapason depuis Louis XIV, disons, jusqu'à maintenant, il est monté quasiment d'un ton. Oui. Un ton, c'est rien, c'est do, ré, c'est une note, mais tous les instruments, du coup, ont subi un rétrécissement pour qu'on puisse jouer de plus en plus haut. Ça tient au fait que les salles, avant, on jouait dans la chambre du roi, maintenant, on joue à l'Opéra Bastille, où il y a 2400 places.
Ou ici, c'est pareil.
Ou ici, ou au Corum, oui. Ouais. Donc il faut plus de projections, donc pour plus de projections, il faut que le son soit plus concentré, donc une perce plus fine. La différence entre le hautbois baroque et le hautbois classique, c'est ça. Ensuite, la différence entre le hautbois classique et le hautbois, qu'on va dire moderne, avec lequel on peut jouer tout le répertoire, mais voilà, c'est énorme. Il y a, à la base, le hautbois classique ou le hautbois baroque, il est en buis, il y a que deux clés,
c'est ça.
Au petit doigt droit. Et sur le hautbois moderne, c'est recouvert de clés, c'est en ébène, c'est du bois très très dur, et puis voilà, c'est des prouesses technologiques.
Et on continue, ça évolue toujours ?
Ça évolue toujours, je sais pas trop vers quoi on va aller, mais maintenant on le découpe à des endroits différents, alors c'est plus coupé en son milieu.
Ah oui, vous dites pour le démonter ?
Oui, pour le démonter, parce que du coup on se rend compte qu'il y a l'écart entre deux notes qui est à cause du point de démontage qui est trop long, donc on va le démonter ailleurs, un endroit où ça gêne un peu moins, alors voilà, on essaie de régler plein de petits soucis comme ça, d'homogénéité, mais on est au même titre que les Formule 1, les réglages de Formule 1, quoi, c'est du micro-détail, et pourtant, quand on essaye des hautbois neufs, qui sont donc faits à la chaîne, dans des usines spécialisées, avec plus de 45 personnes sur la chaîne de production, on n'en a pas de pareil, et il y a toujours... Il y a toujours une espèce de connexion qu'on doit trouver avec le bois, parce qu'avant tout, la matière principale, c'est le bois, même si c'est du bois mort, il faut trouver un peu le bois qui nous correspond.
Et le bois baroque, il se démonte pareil ?
Le bois baroque, il se démonte pareil en trois morceaux, voilà...
D'accord.
C'est la même chose, oui.
D'accord. Et alors, on était dans les prix, donc, le bois baroque, 20 000 euros, j'ai plus 22, vous avez dit, et on boit les meilleurs au bois, je veux dire, actuels, qui sont tout neufs.
Alors, le meilleur au bois baroque actuel qu'on peut acheter, donc une copie d'un au bois baroque, c'est très bon marché, ça va coûter 1 500 euros.
Ah, pas plus.
Entre 1 500 et 2 000 euros, quoi.
D'accord. Et ça, c'est résistant, je veux dire.
Ça, c'est résistant, ça tient 25 ans.
Ah oui.
Et maintenant, le meilleur au bois moderne qu'on va trouver maintenant, du moins le modèle le plus cher, le plus haut de gamme qu'on va trouver, parce que les nouvelles avancées technologiques et tout ça, il va coûter 15 000 euros. 14
000,
il approche de 100
poussières. Ah oui, ça fait une grosse différence, ça fait 10 fois plus. Hein. Et il résistera plus longtemps aussi.
Il va vous durer, si vous êtes professionnel et que vous jouez tous les jours, il va vous durer entre 6 et 8 ans.
Oui, c'est ça. Je me rappelle les musiciens d'orchestre qui avaient des problèmes ici d'humidité, ils se fanaient.
Oui, en plus, oui.
Mais ça, c'est pas... D'accord.
6-8 ans, oui, faites les calculs, ça revient à peu près aussi cher que d'acheter un beau violon.
Oui, ça fait ça. Ça fait ça. Bien, donc, vous n'avez pas laissé tomber le hautbois. Vous passez allègrement de l'un à l'autre. Vous travaillez autant sur l'un que sur l'autre, hein ?
Je pense que je fais 50-50 de mon activité, hautbois historique et hautbois moderne.
J'ai vu que vous jouez avec des sacrés ensembles. Quand vous avez Pygmalion, j'ai vu. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, Les Incognitis.
Ouais.
Et puis, bon, j'ai noté cela.
Mais parce que... des Champs-Élysées. Là, ouais. j'ai fait 2 ans à la Scala de Milan. J'ai remplacé là-bas. Donc voilà, je fais un peu de tout. Je vois tout ce qui existe un peu. Enfin, pas tout, bien sûr, mais je vois un large panel de tout le milieu musical français, européen et parfois mondial même. Donc c'est...
Et alors, pour un hautbois, qu'est-ce qu'il vaut mieux ? Jouer dans un orchestre, c'est plus confortable, ou jouer en soliste ? Soliste ou dans une petite ensemble ?
C'est toujours pareil. Est-ce qu'il vaut mieux plein de petits CDD ? Est-ce qu'il vaut mieux un CDI où on a les vacances et les congés payés ? C'est toujours pareil. Moi, je trouve que là, j'ai une vie incroyablement riche. Alors, je suis toujours sur la route et toujours en train d'être en retard sur la confection de mes anges pour le projet d'après, et d'être en retard sur...
Ah, parce que c'est vous qui faites tout.
C'est moi qui fais tout, oui. Et d'être en retard sur le morceau que je dois monter pour la semaine d'après, mais je peux pas me plaindre, je bosse beaucoup et c'est extrêmement riche, quoi. Je vais de projet en projet.
D'accord, on va parler des hanches. Alors comment vous les travaillez, les hanches, en fonction de votre instrument, en fonction de l'œuvre qui va être jouée, du chef qui est...
Ouais. Bon, le chef...
Il peut chipoter.
Oui, tant pis pour lui. Hein. Ça, c'est... Je fais pas de la musique pour les chefs d'orchestre, je fais de la musique pour ceux qui se trouvent derrière le chef d'orchestre, qu'on appelle le public, qui sont beaucoup plus musiciens que la plupart des chefs.
On peut couper si vous voulez.
Non, mais on coupe pas, c'est des pensées. Je pense tout haut, mais je me suis retrouvé face à des chefs qui n'avaient rien d'humain et rien de musical. Et c'est quelque chose qu'on apprend vite à faire. Alors, il y a des chefs avec qui c'est incroyable de travailler.
On donnera pas des noms.
On donne pas de noms, mais il y en a qui sont inhumains et très désagréables. Et c'est avec ceux-là, dans ce cas, on fait un peu ce qu'on veut. Mais quand, moi j'appartiens à une génération qui fait un peu attention à ça. Et les chefs de maintenant, les bons chefs de maintenant, sont très humains, très attentifs, et ils remercient. Il y a toute une génération de chefs qui ne fait pas ça, qui n'a jamais fait, qui ne le fera jamais. C'est bien dommage pour eux. Mais bref les anges, comme je vous le disais, les anges, j'ai donc 11 ou 12 au bois, je ne sais plus, et c'est à chaque fois 11 ou 12 anges différentes. C'est jamais le même modèle, les mêmes tailles et tout ça.
Et comment vous le percevez, ça ? Il y a des textes où on vous dit...
Oui, il y a des textes, et puis en fonction de la taille de la perce, forcément, la taille pour mettre en vibration l'air dans la perce est différente. Donc il y a toute une proportionnalité à respecter. C'est assez scientifique et pourtant très empirique. On apprend à faire d'une certaine manière. Et voilà. Donc, moi, je l'ai fait, j'achète de la canne de Provence, hein, qu'on voit là au bord de la route, qui coûte 160 euros le kilo, je ne sais pas si on le sait, parce que sinon on va peut-être aller là.
Oui, quand même.
Vous pouvez récolter de la canne de Provence sur le bord de la route et vous faire votre petit marché auprès des hautboïstes, des clarinettistes, des saxophonistes.
Mais c'est pareil pour les hautbois ou les clarinettes modernes.
Les clarinettes, non, ils les font faire à l'usine, en fait, et ils achètent des boîtes de 20 hanches simples. C'est plus simple, comme le nom l'indique, parce qu'il n'y a qu'une lamelle de roseau.
Oui, c'est ça.
Que nous, on a une hanche double, c'est en fait une lamelle de roseau que l'on replie sur elle-même. Et ensuite, on vient l'ouvrir et avec un couteau, on va lui donner une forme très précise pour que la vibration puisse se faire. Donc l'air qu'on envoie dedans, en fonction de comment le roseau est gratté, se met en vibration d'une certaine manière.
Et ça demande combien de faire une hache ? En faites plusieurs, peut-être en même temps.
En général, on en a au moins 20 dans la boîte. Et puis quand on a un concert, on en prépare en général 5 pour être sûr qu'il y en ait une qui marche.
Donc il vous faut combien de temps pour en faire une ?
Et ben en fait, c'est sur un temps très long parce qu'il y a tout un temps de repos entre chaque étape.
Ah oui.
Donc moi, une hanche que je vais jouer, en minutes, mi bout à bout, ça prend une heure par hanche, je pense, ou 45 minutes par hanche. Peut-être un peu moins, mais le temps de la montée, tout ça. Mais en fait, en général, quand j'en gratte une, parfois elle est depuis un an dans ma boîte et elle attend son tour, comme une bouteille de vin dans la cave.
Je vois. Que dire d'autre ? Ah oui, vous avez gagné des prix quand vous étiez jeune. Hein ?
Ah oui, dans ma jeunesse.
J'ai vu 3, mais je peux peut-être mal noter.
3, oui, non, ça doit être ça. Enfin, je sais plus, mais oui. Ben, quand on est jeune, on a l'occasion de faire des concours internationaux qui sont...
C'est utile, à votre avis ?
C'est... artistiquement, non.
Chômage.
Artistiquement, parce qu'artistiquement, quand vous mettez 4 personnes mis bout à bout avec un jury qui ne sait pas s'entendre et qui n'a pas d'esthétique commune, parce qu'il y a... un Français, un Tchèque, enfin il y a plein de gens différents qui jouent de manière différente et c'est tant mieux. Et on leur dit bah maintenant votez pour le meilleur. Donc en général le Français préfère le Français, le Tchèque préfère le Tchèque et puis oui. et donc ça fait quelque chose de d'archaïque. Donc notez l'artistique à un concours international, c'est bon, il y a des gens qui font consensus et qui posent absolument pas de doute, mais en général quand même il y a.
Vous avez déjà fait partie du jury?
Non, jamais. Ça, j'aimerais bien. C'est une expérience que j'aimerais bien voir pour voir comment ça se passe à l'intérieur. Et après, les concours, sur le plan technique, déjà, ça fait travailler. En général, on fait ça quand on est jeune, quand on est encore au conservatoire, qu'on a le temps de se préparer bien. Donc, ça fait énormément faire de progrès. Et au-delà de ça, on rencontre plein de gens, en fait. Quand on arrive à un concours, comme je disais, il y a un Français, un Tchèque, il y a des Allemands. Donc, en fait, on rencontre plein de gens et on se fait tout un réseau. Moi, j'ai plein d'amis que j'ai rencontrés dans des concours internationaux. Et ça fait que le monde du hautbois est plus petit maintenant parce que je connais quelqu'un qui bosse à Helsinki, je connais quelqu'un qui bosse là-bas, partout. Donc, ça nous rapproche tous et ça, c'est des super expériences pour ça.
D'accord. Donc, on va reprendre les disques. Vous en avez fait pas mal. J'ai vu qu'il y a...
Aussi,
alors,
oui.
J'aimerais savoir pourquoi vous avez mis Romance sans S dans un de vos derniers CD.
Alors, moi, je voulais mettre le S. Et puis,
sur le coup, ça m'a marqué. J'ai dit, mais
oui.
Mais pourquoi ? Puis après, dans l'explication du texte, il y avait un S.
Moi, je voulais mettre le S, surtout que du coup, on est tous les deux écrochés. Ouais. Il y a les photos, il y a marqué Romance sans S. Alors, c'est marrant. Nous. Mais non, c'est bien évidemment Romance avec un S, parce qu'il y en a plusieurs. Mais c'est bon, je pense qu'après un titre de disque, c'est toujours pareil. Il faut que ça parle. Et, peut-être que ça parle mieux sans S, c'est peut-être plus romantique, je sais pas.
Et Mozart, qui va nous retrouver votre soir avec les quintettes de Mozart et de Beethoven. Alors, il y a un lien pour vous entre les deux ?
Ah oui, oui. Bah, en tout cas, Beethoven n'aurait jamais écrit ça s'il n'avait pas entendu celui de Mozart. Mozart, c'est magnifique. C'est la pièce que Mozart lui-même tient pour la meilleure qu'il n'ait jamais écrite.
Moi, je trouve que c'est
un chef-d'œuvre. C'est un bijou de musique de chambre. Et Mozart l'écrit dans une lettre à son père. Il dit, c'est la meilleure œuvre que j'ai jamais écrite.
Donc, d'accord. Il avait quel âge à ce moment-là ? Il était vieux ?
Il était, ouais, dans sa maturité. Bon, ouais. Son père était encore là. Il était dans sa maturité, mais c'est... je ne sais plus vraiment l'année exacte. Mais,
parce que Mozart, il jouait du violon, de l'alto, je crois.
Un peu
de piano, évidemment.
Piano, ouais.
Mais le bois, il touchait
le bois, il ne touchait pas, mais il a rencontré deux virtuoses, du moins, dans sa vie, qu'on sache. Ferlandis, pour qui il a écrit un concerto,
oui.
En do majeur, qui est
beau,
le grand concerto, très beau. Ouais. Et ensuite, il a rencontré Friedrich Rahm, quand il était à Munich. Et à Rahm, il a écrit le quatuor pour hautbois et trio à cordes. Et ça, c'est... un bijou et c'est une petite perle de virtuosité et tout ça, donc je pense que Rahm a fait sensation auprès de Mozart et je pense qu'il adorait ça. Il lui a écrit un espèce de c'est un mini concerto ce quatuor et il y a des trucs extrêmement durs même avec le hautbois moderne sur le hautbois classique qui sont qui demandent une virtuosité telle que Rahm devait vraiment être un grand virtuose de son temps. Ça c'est
d'accord.
Ça,
c'est ça. Et ça demande en général une énorme virtuosité le hautbois ou c'est plus
non. Alors c'est pas de la virtuosité comme à la clarinette, de la virtuosité de doigt ou comme au piano, de la technicité pure. Ce qui demande de la virtuosité, c'est de... il y a quand même une chose, c'est qu'il y a beaucoup de correspondance. Quand on appuie l'index gauche, ça lève deux pointes, on appelle ça des pointes, deux autres petits trous, ça ouvre deux petits trous. Sauf que s'il y a le majeur droit qui est mis là, à ce moment-là, ça empêche la levée d'une des pointes. Donc en fait, il faut une synchronisation assez parfaite. Mais il n'y a jamais de très très virtuose, de passage très virtuose, très rapide. Il y a bien sûr des pièces de virtuosité, mais ce qui est dur au hautbois, c'est la gestion de l'air, la gestion de la pression, et surtout la gestion de la justesse et de toujours avoir le timbre qu'il faut. La virtuosité du hautbois, elle réside souvent dans la justesse, le timbre juste et la manière dont on va attaquer chaque note et tout ça. Ouais,
et est-ce qu'on passe facilement, excusez-moi, je suis une bête dans tout ça, on passe facilement d'un hautbois encore anglais, par exemple ?
On passe facilement d'un hautbois encore anglais, oui, du moins ceux qui ont l'habitude, ceux qui jouent encore anglais à l'orchestre, par exemple, doivent souvent jouer un peu de hautbois et ça... Ça se fait assez facilement quand on a l'habitude, quand on a pris les repères. Quand on joue les passions de Bach, par exemple, on a un air sur hautbois, au bois, quoi. Après, on a un petit récitatif au hautbois d'amour, et ensuite, il faut prendre le hautbois de chasse, qui est l'équivalent du cor anglais de l'époque. Et donc, voilà, on a les trois instruments. Donc, de tout temps, on a jonglé entre les instruments. Bien sûr, c'est plus confortable si on fait tout le concert avec le hautbois, mais ça se fait. Ça se
fait. Ouais. Et alors, les lèvres, pour moi, extérieur, j'ai l'impression que les lèvres, ça doit être terrible, non?
Qu'est-ce que c'est le plus dur? Parce que souvent, on nous dit, il faut beaucoup d'air. Alors, en fait, il faut très peu d'air. Les lèvres, c'est. Il y a de la résistance. C'est plutôt les muscles du sourire, là, ceux qui nous permettent de sourire, qui sont très sollicités, parce que finalement, on met, en théorie, pas de pression dans les lèvres. Quand on a une bonne hanche et quand on a un bon matériel, on n'est pas censé appuyer sur l'hanche avec les lèvres. Donc on doit juste tenir la bouche en forme de rond autour de l'hanche, et donc c'est les zygomatiques.
Pour maintenir un souffle constant quand même.
Et maintenir un souffle constant, mais en fait l'hanche est tellement petite que maintenir le souffle constant c'est assez évident.
Parce qu'on les voit souvent, ils ont des joues pas possibles.
Ah oui, parce que parfois on a plus de force, donc les joues se gonflent, tout se gonfle, mais aussi parfois on met de l'air dans les joues qu'on réinjecte pendant qu'on inspire par le nez, on appelle ça la respiration circulaire.
Oui, c'est ça.
Et là, ça nous permet de jouer des heures, enfin, des minutes et des minutes sans respirer, et surprendre tout le monde.
Oui, c'est vrai que des fois, alors, je sais pas si dans quel instrument on arrive à faire le plus ce genre.
Et je pense que pour le hautbois, c'est au plus aisé, la respiration circulaire, parce qu'il y a, comme il y a beaucoup de pression, on peut envoyer très peu d'air, donc on peut beaucoup jouer, on a un très long temps disponible, l'air dans les joues, on peut en disposer assez longtemps.
Est-ce qu'à un moment, comme par exemple les violonistes, on peut dire qu'on a atteint son niveau technique, ou constamment il faut le remettre à jour?
Constamment il faut le remettre à jour, là je pense que c'est équivalent au sport. Quelqu'un qui a atteint le firmament de son sport, s'il arrête 6 mois, il perd ses performances. J'aime pas trop les parallèles entre le sport et la musique, mais il y a quand même un côté performance, quoi. On a des muscles qui sont développés par rapport à d'autres. Moi, mes zygomatiques sont 2 fois ou 3 fois plus gros que la normale, je pense. Mais voilà, il y a quand même des muscles qu'il faut qu'on entretienne. Après, on n'est pas dans la performance dans la musique, malgré beaucoup d'idées reçues. Mais donc, c'est pas ça qui compte, mais c'est quand même plus facile de jouer quand on est en bonne forme physique et qu'on a les muscles prêts.
Est-ce que vous avez un compositeur préféré, juste comme ça?
Moi, tous. Bon, tous. Je dirais que Rameau.
Celui que vous venez de jouer. Ah oui.
Rameau. Non, alors Rameau, je viens pas de le jouer, mais Rameau, c'est pour moi. Je peux jouer.
Vous mettez 2 mesures de Rameau, même pas.
Et on reconnaît, hein, on reconnaît tout de suite. Il y a une patte, il y a un truc, enfin, c'est un génie, voilà, Rameau. Je pense que je dirais Rameau si je devais en répondre qu'un.
Tout à fait d'accord. Plus que Mozart, il n'y a pas de doute.
Oui, mais Mozart, j'adore, hein, et puis il a fait beaucoup pour le hautbois et tout ça, mais. C'est trop facile, Mozart. Voilà. Tout le monde dirait ça. J'adore Mozart. Oui, mais moi, j'adore Rameau. Et oui, Mozart.
Et ça, je comprends. Ça, alors là, moi, j'écoute, je suis déprimé. Paf, ouais. Rameau.
Et puis, Rameau, si on le met à l'envers, ça fait Mora. On n'est pas loin de Mozart. Donc,
j'avais pas pensé à celle-là. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Pidou. J'espère qu'on se reverra d'ici peu.
Avec grand plaisir.
Voilà.
Grand
plaisir. Peut-être avec
notre papa.
Oui, pourquoi
avec papa,
pas
je joue avec lui après-demain.
Ah bon?
Oui, au château de Grignan.
Ah oui, c'est pas loin.
Non, c'est pas loin.
Non, ouais. C'est un joli endroit.
Bah, ouais, ça va être bien.
Voilà, c'était donc Gabriel Pidou, le hautbois classique au bas baroque, qui était à Montpellier, et vous avez entendu, eh bien, une œuvre de Mozart où on entend le hautbois, mais pas que, il y a des clarinettes et autres. Donc après Monsieur Pidou, nous allons écouter Monsieur Hervé Niquet. Vous savez, Hervé Niquet est resté pendant quelques temps ici à Montpellier, et depuis pas mal d'années, il n'était pas revenu, et nous avons eu la chance de nous accueillir, il a eu la chance de nous accueillir avec une grande voix tonitruante comme d'habitude, mais une très grande gentillesse. Donc voici Hervé Niquet qui va tout vous raconter sur la messe d'Alessandro Ciggio. Hervé Niquet, ça fait combien d'années qu'on ne vous a pas vu à Montpellier?
Oh, trop! J'ai le spleen, là, quand je suis arrivé hier soir. Je me promenais tout seul le soir, là, vers 22h, 23h dans la ville. Et j'avoue que j'ai eu un petit coup de cafard quand j'ai pensé aux toutes toutes les belles choses qu'on a fait pendant des années, pendant le festival, pendant la saison, avec l'orchestre, avec le chœur, avec Opéra Junior, avec un grand chœur amateur de 150 choristes que j'avais monté, le concert spirituel, enfin voilà. Donc là, ça fait très longtemps qu'on n'est pas venu, donc je vais un petit coup de spleen.
Un petit peu de spleen. Alors j'ai vu dans une dépêche, je ne sais plus laquelle, que vous avez été créé, comment on appelle ça, le pape, vous avez créé, vous l'avez vu, c'est peut-être un peu de vous, non ?
Alors, oui, on a, juste avant Montpellier, on a été joué à Saint-Jean-de-Latran, à
oui,
Rome. Et je vous rappelle que le curé de la paroisse, c'est tout simplement Léon XIV, parce que c'est sa paroisse. Et il y en a un autre qui est chanoine du Latran, et ben c'est Monsieur Macron.
Macron oui.
Et donc voilà, j'étais à m'asseoir à sa place quelques instants pour voir ce que ça faisait d'être chanoine du Latran. Et oui, après le Saint-Jean-de-Latran, qui est une des quatre basiliques majeures de Rome, le pape nous a donné l'autorisation de faire un concert, un moment musical. On va
dire. Il est venu ?
Non, il n'est pas venu, il avait du boulot, il m'a dit. Bon. Et on a donné l'œuvre que donc, on donne au Festival de Montpellier, on l'a fait chez le pape juste avant.
Ça doit faire bizarre, non ?
Non, ça fait pas bizarre parce que c'est une œuvre qui est adaptée au lieu et le lieu est adapté à l'œuvre. C'est immense. Nous, il nous faut 4 à 6 secondes de réverbération. Il
y en a
Il y en a 4,5-5 à Saint-Jean-de-Latran. C'est juste formidable. Donc ça a été, j'allais dire, cette musique est difficile. Hein. Mais ça a été presque facile.
Moi, j'avoue que quand on voit 60... Enfin, j'ai vu un extrait de la partition. Quand on voit 60 morceaux, je ne sais pas... Franchement, je sais que je vous ai posé la question déjà. On les entend vraiment, les 60 hein.
Alors, je connais bien la partition.
S'il y en a un qui quoique... Quoique, bon, ce n'est pas le plus grave.
Si, j'entends ce qui manque.
Oui, voilà, voilà. D'accord.
Là, si jamais il y a quelque chose qui n'est pas... qui existe et qui n'est pas écrit, je l'entends immédiatement. Donc j'allais dire presque que j'entends par omission, parce que quand on est à 60 voix comme le troisième Agnus Dei, c'est vraiment féroce, quoi. Mais si vous connaissez bien les parties, vous savez ce qui ne doit pas exister. Voilà.
Ben d'accord, il y a un petit truc.
Et du coup, en ayant travaillé les 60 voix, je me suis rendu compte que les 40 voix, c'est beaucoup plus facile.
Mais déjà, 40, tout le monde ne peut pas l'entendre, les 40, mais les 60, j'imagine que...
Oui, c'est compliqué.
C'est compliqué. Oui. Alors, quelque part, j'ai lu que vous disiez que c'est la partition la plus difficile. Il n'y a pas du contemporain plus difficile ?
Non, non, c'est pas la... non, non, c'est pas... je ne parle pas de difficulté, je parle de complexité.
Ah, d'accord, oui.
C'est parce que des trucs difficiles, musique contemporaine, oui, il y en a des...
Les soldats, ça doit être redoutable.
Absolument. Mais tout ce qui... pour la complexité, c'est quand même 40 parties où il n'y a aucune doublure. Et la News Dei, 60 parties où il n'y a aucune doublure. Et c'est vraiment un manifeste de mathématiques, en fin de compte. On aurait dû donner au type, si ça avait existé, le prix Nobel.
Mais là, Ufield, ça n'existait pas, le prix Nobel à maths.
Ben voilà.
Mais, là, mais il faut être jeune pour l'avoir. Lui, ce n'était pas son cas. Par rapport au CD, on reprend par rapport à ça. Vous avez changé des morceaux ou c'est exactement la même chose ?
C'est pas tout à fait la même chose parce que c'est l'année Palestrina cette année.
Oui.
Et j'ai trouvé bien de mettre quelques pièces de Palestrina qui sont jouées uniquement aux instruments parce qu'on a la chance d'avoir une famille de Lulciane, une famille de Sacbout. Et donc j'ai confié, pour reposer un peu les chanteurs, parce que c'est tellement lourd, ces pièces de Palestrina, je les ai confiées aux deux ensembles instrumentaux, aux deux familles d'instruments. Donc il y a ça qui change. Sans ça, non, on a changé très peu de choses par rapport au disque.
Est-ce que la difficulté, par exemple, on sait actuellement, c'est un peu la mode de retrouver des, ordres, des morceaux très dissonants du début du baroque hein. Est-ce que là, c'est très dissonant, pas tant que ça ?
Alors, d'abord, c'est justement... avant le baroque, c'est-à-dire ouais. C'est un manifeste d'un génial musicien qui a compris avec la mode vers quoi on allait, vers le baroque. Et c'est pour ça qu'il s'est promené dans toute l'Europe. Il a rencontré, je crois que c'était Henri II, il a rencontré le roi d'Angleterre, il a rencontré l'empereur d'Autriche. Pour les supplier de rester dans ce monde de mathématiques. Et donc l'émission vocale, la rythmie, la métrique, c'est vraiment archaïque.
D'accord.
Et grâce à ça, il réussit quand même à donner énormément de sensualité, de volubilité, de panache, de douceur, de tendresse, de force, d'irradiation. Avec ça, avec la mathématique, il résout tous les problèmes.
Oui, mais c'est un peu votre façon de prendre l'œuvre, parce que quand on écoute un autre enregistrement dont on ne citera pas, c'est très, 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 je veux dire, vous interprétez, vous rajoutez ce que vous avez envie de rajouter dedans, mais l'autre interprétation, c'est très carré, c'est à la limite, j'ose dire le mot, un peu chiant.
Ben, le problème, c'est que il faut appeler les hommes, c'est-à-dire, c'est pas des demi-voix qui doivent chanter ça, ou des baroqueux.
Oui,
il faut vraiment que ça soit des gens qui chantent à pleine voix. Et si tout le monde joue et chante à pleine voix, toutes les dynamiques, toutes les nuances, toute l'émotion est là. Parce qu'il va orchestrer avec ses cinq chœurs les crescendos d'orchestre comme il veut. Il ne faut surtout pas intervenir dans la matière. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. On a respecté simplement la mathématique. Là, ils arrivent du train. Ils étaient 4 heures dans le train ce matin. Ils arrivent de partout, de toute l'Europe, pour faire ça. J'ai mis une heure, quand même, pendant le raccord qui durait une heure et demie, une heure pour que tout le monde retrouve ses marques et chante recto tono, tout droit. Et la musique brusquement arrive en faisant des harmoniques, en faisant une technique de chant un peu archaïque, et ça marche formidablement bien.
Alors, il y a des instruments là au milieu, dans la partition, dans les morceaux de partition qu'il y a, elles sont notées aussi ou c'est vous qui l'avez rajouté ?
Non, mais on a remarqué que dans le plan de scène qu'on a, les deux chœurs extérieurs, chœur 1 et 5, sont a cappella, juste avec un violoncelle et une contrebasse. Les chœurs 2 et 4 sont accompagnés collés à parté par des claviers. Donc, j'ai fait doubler par les claviers. Et le chœur du centre, qui est le chœur axe, qui est le chœur royal, on double par les dulcianes et les sacboutes. Alors, c'est un parti pris, c'est de l'observation aussi architecturale, parce que l'hôtel est au centre. Donc, voilà, on met tout l'or au centre et les sombres sur les côtés. Et ça donne, si on respecte ça... J'ai toute l'orchestration de Strigio, les masses qui bougent, les échanges, les lointains, les proches, enfin, c'est formidable.
D'accord. Et au point de vue chanteur-instrumentiste, c'est toujours les mêmes que vous avez ou vous variez un peu quand même ?
Alors la dernière fois qu'on a fait ça, il y a une dizaine d'années, 12 ans, il y en a...
Ah, vous ne l'avez pas fait entre-temps ? Depuis, vous ne l'avez pas
refait ? Non, on a fait une énorme tournée d'une vingtaine de dates. Et là, on est en train de refaire une tournée en Europe. On était en Allemagne, on va au Proms à Londres, on était en Italie, on était un peu partout en Belgique. Et en France, évidemment. Mais ça fait 12 ans qu'on n'a pas fait ça. Donc, il y a beaucoup de gens, le temps étant difficile, qui ont quitté le métier.
Ah oui, directement.
C'est très, très dur pour les musiciens. Il y en a qui ont vieilli et qui font autre chose. Et puis j'ai intégré des nouveaux, voilà. Donc on reforme une autre génération. Il y a 30% de gens qui ne l'avaient pas fait. 30-35% de gens qui ne l'avaient pas fait.
Dominique Wyss, il n'est plus là.
Non, Dominique.
Et Zajcik non plus, je suppose.
Non.
Voilà. En regardant, je me suis dit, ils étaient tous les deux. Me rappelais pour Dominique, parce que c'est lui qui plus ou moins l'a trouvé, l'œuvre.
Oui.
Mais Zajcik, j'avoue que je ne me rappelais pas.
Eh oui. Il y a des gens qui sont passés, qui étaient ravis de faire ça. Et c'était un vrai événement, donc tout le monde voulait participer.
C'est bien. Alors ensuite, après Montpellier, vous continuez votre tournée, mais...
On continue notre tournée. On va au Festival de Sainte, évidemment, dans la cathédrale. Après, je prends un mois de vacances, parce que j'en ai...
C'est jamais arrivé, ça, non ?
Ça fait très longtemps que j'ai pas eu un mois de vacances, donc ça fait vraiment du bien. Et après, on reprend Strigio, on va au Proms à Londres, ça c'est quand même un gros événement. Ce programme sera redonné en décembre à Neuilly. Et puis après, on va à la Chaise-Dieu faire le Messie de Händel, Gloria Magnificat de Vivaldi.
Alors le Messie, c'est avec gros effectif
ou... Oui, bien sûr, c'est la version de 1754 où il faut 5 solistes.
Voilà, d'accord.
Et puis, après, moi, je vais m'enfermer à Toulouse parce que je dirige le spectacle qui sera le spectacle d'ouverture au Capitole, le Thaïs de Massenet. avec le cœur et le...
Vous l'avez déjà fait, Thaïs ?
Non, moi j'étais chef de chant, donc je l'ai évidemment accompagné moult fois. Mais c'est la première fois que je fais Thaïs, ça fait très longtemps que j'ai envie. Bon ben voilà, on approche de mes 70 ans, il est temps quoi.
Ah, moi j'y suis arrivé déjà. Ouais.
Oui mais bon.
C'est pas la même chose. Et quoi d'autre ? Beaucoup de musique française toujours.
Oui, je fais beaucoup de musique française, c'est ce que je parle le mieux. Donc voilà, évidemment, on fait pas mal de Händel, mais cette année, on fête les 300 ans du concert spirituel. Et donc, une journée à Paris, à la salle Gaveau, on va faire dans la même après-midi les messes brèves de Mozart et puis Gloria et Magnificat de Vivaldi pour faire la fête après.
D'accord.
Avec les Parisiens.
D'accord. Et Mozart, donc vous êtes un peu rabiboché, je dirais, avec Mozart, parce que vous avez connu ici des fois un peu trop, un peu, je sais pas comment dire, on a fait.
Ben, c'est-à-dire les opéras, moi j'aime bien Don Giovanni, j'aime bien La Flûte Enchantée, Les Noces évidemment, mais sorti de ces trois-là.
Pas posé.
Non, c'est trop long.
Et puis, moi, c'est mon préféré.
Oh mon Dieu, c'est compliqué. Et puis ça dure 4 heures.
Oui, non, mais c'est vrai, bien sûr.
Non, non, moi je suis un vieux, moi 4 heures, c'est trop long. Là.
Ouais.
Et non, mais à part Les Noces, Don Giovanni et La Flûte Enchantée, qu'on a fait encore récemment à Versailles, là. Non, Mozart, si, alors la musique sacrée, évidemment, on a fait une version du Requiem de Mozart et de Salieri aussi, qui était formidable, qui a été remarquée dans le monde entier.
Oui.
Voilà, c'est. Mais vous verrez, les messes brèves de Mozart, on va enregistrer ça en mars l'année prochaine.
Le concert spirituel, toujours.
Oui. On me dit, oui, mais c'est une œuvre de jeunesse, 20 ans, oui, mais quand on est génial à 20 ans, c'est extraordinaire. Hein.
Ouais.
Et ben c'est les deux messes qu'on va enregistrer sont des moments de bonheur mozartien absolu.
C'est vrai que bon, on conclura sur ça. À ce moment où vous faites les CD, ça fleurit chez Niquet. Hein.
Ah oui,
on a certains mois, il y en a trois. Hein,
oui. Mais c'est vrai. On a compté récemment depuis 40 ans là, depuis non même 30 oui, près de 40 ans, j'ai enregistré plus de 195 disques. Sans compter ceux qui doivent sortir cette année, l'année prochaine, et tous ceux qui sont en devenir. Donc voilà, j'ai fait. Je pense que j'ai laissé une trace, quoi.
Oui, et puis pas fatigué, enfin, à part des années un peu lourdes.
J'ai plus 20 ans, quoi, ça c'est très clair. Mais la concentration du travail, j'en fatigue encore beaucoup, ceux qui sont en face. Ils me disent, mais comment tu fais ? Ben, d'abord, je suis assis. Et puis quand on vieillit, on apprend à s'économiser et à analyser, et donc à ne pas perdre de temps, à ne pas chercher, mais à trouver. Comme disait Picasso, moi je les laisse chercher, chercher les autres, moi j'ai trouvé.
Voilà. Bon, merci Hervé, et à
merci,
bientôt.
Merci, à bientôt.
Donc c'était la deuxième émission consacrée au festival. Alors je vous rappelle le titre, le nouveau festival Radio France Occitanie Montpellier 2025 qui fête alors les 40 ans de ce festival. Vous avez entendu aujourd'hui Hervé Niquet et vous avez entendu le hoboïste Monsieur Gabriel Pidou. Je remercie à la technique Monsieur Yann et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Je vous dis à bientôt. Et nous allons écouter donc les deux dernières émissions. Bye bye, à bientôt.